Thérapsy, Caroline Derumini sur Nutri Radio.
Caroline Derumini sur Nutri Radio, bonjour. Caroline Derumini qui
bonjour.
Met son casque. Ah voilà, oui, mettez votre casque, vous avez raison, je vous ai pris un petit peu au dépourvu. Parce que voilà, vous savez, les émissions s'enchaînent et je sais que vous étiez au téléphone en train de discuter. Avec qui vous étiez en train de discuter au téléphone ?
Je discutais pas du tout au téléphone, j'aime pas du tout quand tu me fais mentir.
Ah, pas d'imagination,
je suis
c'est
une très mauvaise
incroyable.
Menteuse.
Alors moi, depuis un moment donné, il va falloir que je passe au tutoiement avec toi, Caroline. On va se tutoyer.
Ah
ouais, non, c'est...
Et les choses se confirment.
Bon, alors, Caroline Derumini, chaque semaine sur Nutri Radio, on a fait trois émissions. Là, toutes les émissions sont intéressantes d'ailleurs. Et Sabrina Lerche, qui était avec nous la semaine dernière, la semaine d'avant et la semaine encore d'avant, qui est, on le rappelle et on l'embrasse, une diététicienne nutritionniste spécialisée pour les enfants de 0 à 3 ans. Oui, non, mais Caroline, elle me rappelle, mais que... La radio, c'est ça. Les gens viennent, les gens ils s'en vont, les gens ils sont pas là tout le temps. C'est pas dans votre cabinet, ils sont pas en consultation, il y a pas un fil conducteur comme ça. On recontextualise en permanence. Vous, Caroline Derumini, par exemple, qui êtes-vous ? Présentez-vous à nos auditeurs. Bon, donc c'était des émissions que je vous conseille. Le lien entre l'alimentation chez les 0-3 ans, les émotions, le développement psychologique, l'impact aussi qu'on peut avoir, et nous aussi, les parents. Enfin bon, il y avait plein de choses à dire. Si vous voulez réagir sur toutes ces émissions, vous n'hésitez pas. Vous nous envoyez un petit mail. Rendez-vous sur nutriradio.fr, dans le formulaire de contact, vous mettez Caroline ou Caroline Derumini ou Thérapsy. Et puis, on s'occupe de traiter ces questions. D'ailleurs, je pense que d'ici la fin de la saison, ce serait bien de faire une spéciale question-réponse.
Respire.
Peut-être. Non, je ne respire pas, parce qu'aujourd'hui, vous m'avez dit...
T'es en apnée.
Mais je suis en apnée. C'est vrai, je vais respirer.
Oui, voilà, parce que...
Vas-y, je respire. Vas-y.
Tu vois, t'étais pressé. Commencé l'émission. J'avais même pas mon casque. Tu stresses tout le monde. Tu pressurises. Ouais.
Débrouille-toi toute seule maintenant.
Ah ben, peut-être que ça sera plus funky, tu vois.
Allez, vas-y. Allez, alors là, elle me cherche.
Non, vas-y.
Non, bon. On parlait, avant de démarrer l'émission, du sujet que tu comptais aborder donc, aujourd'hui, Caroline. Sujet surprenant.
Surprenant ? Tu dirais ça surprenant ?
Ben,
moi, je trouve que... Ah, sur le troisième volet. Ah, mais toi, tu teases dès le début pour que les gens y restent jusqu'à la fin. Et on va pas dire, d'accord, le troisième volet, ce que c'est.
Mais si, parce que je pense que ça compte. Non, mais c'est étonnant, franchement. Et aussi, ça pourra permettre de mieux comprendre certaines choses. Voilà, et ça va entraîner encore de nombreuses conversations. Sans plus attendre, Caroline, dites-nous de quoi vous allez parler cette semaine.
Alors justement, pour être en lien avec Sabrina... qui avait traité les 0-3 ans, je me disais que ça pouvait être bien d'aborder la différenciation de dépression entre postpartum, baby blues et psychose puerpérale. Parce que c'est pas si évident que ça. Alors, mettrait tout dans le même sac de manière, on va dire, familière. Hein. On parlerait de dépression postpartum directe pour mélanger peut-être les trois. Mais il y a une vraie différence entre le baby blues, la dépression postpartum et une psychose puerpérale.
Alors attendez, la psychose, c'est celle-ci là que je ne connaissais pas du tout. Psychose...
Non, on va pas commencer par celle-là.
Non,
par
non,
celle-là.
Mais c'est juste que moi je
psychose
la...
Psychose puerpérale.
Puerpérale, ok, c'est juste pour pas après me...
P-U-E-R-P-E-R-A-L-E.
Voilà, c'est pour pas me prendre les pieds dans le tapis quand je vais vous relancer, motus. Oh là là, quelle ringarde celle-là, quelle ringarde. Bien, alors postpartum, non, baby blues, postpartum et psychose puerpérale, c'est le sujet du jour. Vous allez évidemment, j'imagine, commencer par le baby blues.
Tout à fait.
Voilà, ça sent bien fait. Alors dites-nous un peu ce baby blues, comment vous voulez l'aborder, qu'est-ce que vous voulez nous dire à ce sujet ? On connaît quand même le sujet, hein, je vous le dis ça, mais je vous dis rien.
C'est vrai ? Tu vas pouvoir nous parler de ton baby blues peut-être ?
Caroline, allez-y. C'est là où mes limites sont atteintes, voilà, c'est évident, il n'y a plus rien à dire, merci.
Alors le baby blues, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est, on va dire de manière... c'est très fréquent et anodin dans le sens où il y a plus de 80% des femmes qui, au moment qu'elles accouchent, vont déclencher ce baby blues. C'est un épisode dépressif mineur, je tiens à préciser la chose, lors du troisième ou cinquième jour après la naissance. Donc généralement, soit on est encore à l'hôpital, à la maternité, soit on arrive chez soi. Et là, c'est vraiment, on va dire, associé au fait que la mère va se rendre compte que dans son ventre, c'est vide et on va avoir tout ce qui va être autour du corps, du bouleversement hormonal, et puis à l'esthétique qui fait qu'on a encore un ventre gros, enfin plus flasque en tout cas, parce qu'il n'est plus avec les 3 kilos de bébé qui occupait ce moment-là. Mais il me fait des signes. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Pardon, à faire l'égorgement?
Pardon, qu'est-ce que vous racontez? Les auditeurs vous écoutent, ne comprennent
oui.
rien.
Ah non. Bah tu. Eh ben alors, je vais expliquer. Fabrice me fait un signe. il me dit qu'il va me m'égorger.
Non. Voilà. On va dire la vérité. Ce signe-là, oui, je l'ai fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis en train de rechercher sur le baby blues. Ça peut aussi concerner les hommes.
Je sais.
Là, je vous attendais là-dessus parce que voilà, c'est simplement ça. Donc oui, je pourrais vous parler de mon baby blues, et le baby blues. Même si la femme est plus impactée forcément, et
mais l'homme
peut aussi être affecté par le baby blues. Rideau générique.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrivée d'un bébé va venir bouleverser le système familial, qu'on soit deux en couple ou qu'on soit avec une fratrie déjà composée. Et ça, c'est sûr. Donc, forcément. On va passer l'émission à faire des gestes.
Bon, arrêtez, Caroline, j'arrête de vous perturber.
Merci.
Elle est en studio et je profite qu'elle soit en studio. Il n'y a pas de caméra, c'est pas d'une Nutri TV. Donc, comme je sais qu'elle est très perturbable, je fais des petits signes comme ça, comme un mauvais élève.
C'est en fin de journée, il me fatigue, on fait la quatrième émission.
Caroline, non. Ça me rappelle. Vous allez à l'école, il y a une élève qui a tout bien appris, elle va sur l'estrade et derrière, il y a quelqu'un qui fait des signes, elle oublie son poème et boum, elle a un zéro.
C'est exactement
ça. Bon, allez, je vous perturbe. En plus, c'est un sujet hyper important. Donc,
pour la première partie baby blues, dans le sens où, bon, voilà, c'est fréquent et anodin.
Ça.
Ça arrive très fréquemment chez la femme, aussi chez l'homme. Et c'est vraiment le moment où la première semaine qui succède l'accouchement.
Bien, bon, ça c'est le baby blues, c'est bon. On va passer rapidement, s'il vous plaît, sur le postpartum, parce que c'est pas vraiment le sujet, en vrai. Le vrai sujet, c'est la psychose puerpérale, parce que ça, et on ne présentera pas du tout là-dessus, c'est hyper important pour moi, je pense que c'est moins connu. Donc on marque une toute petite pause, allez vous rafraîchir, mais demandez un café qui est toujours pas là. On se marque une pause, on se retrouve dans un tout petit instant.
Thérapsy, Caroline Derumini sur Nutri Radio.
La suite de cette émission avec Caroline Derumini sur Nutri Radio, qui parle aujourd'hui du postpartum, enfin du baby blues, du syndrome postpartum d'ailleurs. Et on verra dans un instant.
Non, tu vois, là tu mélanges.
Non.
C'est le baby blues.
Ouais, c'est ce que j'ai dit.
Il y a aussi la dépression postpartum.
C'est ce que j'ai dit.
Et la psychose puerpérale.
Mais c'est ce que j'ai dit.
Non, tu fais mode baby blues, puis postpartum.
Mais quelqu'un peut venir récupérer Caroline Derumini? À quelle heure ils viennent chercher des parents? C'est pas possible ça. Et donc, on parlera dans un instant aussi de la psychose puerpérale, qui est peut-être moins connue. Mais si, je pense que c'est vous qui avez choisi le sujet, vous avez bien fait. Est-ce que le baby blues et le syndrome postpartum, c'est pas à peu près la même chose?
Non, justement, pas du tout. Il y a une différenciation entre les deux. La dépression postpartum, déjà, elle n'est pas facilement réversible. Dans le sens où il y en a qui disent, alors on voit en plus, hein, c'est un peu galvaudé sur les réseaux sociaux, où on dit ça dure 6 mois, ça dure 1 an, des fois on dit ça dure 3 ans. En fait, ça peut durer jusque, alors je vais exagérer pour être dans ce côté caricature, mais ça peut être jusqu'aux 18 ans de l'enfant en fait. Le postpartum, qui est souvent, et c'est ce qui vient aussi faire perdurer ce moment-là, c'est souvent dénié par l'entourage et les médecins. C'est un petit peu mis de côté, comme si c'était un baby blues, comme si c'était de l'ordre de l'anormal, et qu'on ne va pas prendre un temps réel de compréhension que cette maman a besoin de vivre. Et on pourrait même avoir les phrases comme « tu te plains maintenant alors que tu le voulais ». C'est des phrases que j'ai déjà entendues. Hein. Donc c'est vraiment des choses difficiles, parce qu'on n'a même plus le droit d'être dans cette ambivalence. Je rappelle que l'ambivalence, c'est très important pour la construction de l'amour, et c'est normal d'aimer la vie d'avant d'avoir des enfants, et aimer quand même sa vie avec les enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, les injonctions qu'on nous met, c'est un peu celle-là. C'est t'as voulu construire une famille, t'as voulu des enfants. Eh bien, pourquoi tu pleures, pourquoi tu te plains? Oui, tu as pu avoir la même vie, mais c'est ton choix. Donc, généralement, elle s'exprime souvent par le somatique, cette dépression postpartum, dans le sens où on en parlait pendant les 3 semaines qui ont précédé avec Sabrina, on va se réfugier ou non dans la nourriture, ça va déclencher quand même certaines choses. Et puis, on va se replier sur soi, on va arrêter d'en parler parce que... au dire des autres, on les bassine avec nos problèmes de maman et de nouvelles places et de nouveaux rôles. D'ailleurs, généralement, ça occupe toutes les discussions. Cette dépression postpartum peut venir aussi se chroniciser, dans le sens où ça peut devenir chronique, d'où le mot chroniciser. On peut avoir 3 mois super bien où on est très heureuse, et après, en alliance aussi avec les saisons d'un système un peu multifactoriel, à l'automne, revenir à quelque chose de difficile, parce que la saison veut que chacun est plus chez soi, qu'on est moins dehors, qu'on a moins de vie sociale, et on va se retrouver avec le bébé qui grandit, souvent avec plein de questions que l'on n'a pas forcément les réponses, auxquelles on n'a pas forcément les réponses, pardon. Et ça nous remet en fait dans un état dépressif. Pourquoi postpartum? Parce que postpartum, dans le sens où le bébé, c'est le bébé qui a déclenché cette situation-là, parce que du coup, ce nouveau-né vient d'arriver, et ou plus ou moins nouveau-né, et vient bouger, bouleverser tout un système familial.
Et ça peut arriver. Vous me dites si je dis des bêtises, mais ça arrive plus souvent sur le premier enfant.
Non, ça dépend.
Ça dépend.
Ça dépend vraiment. Alors je réfléchis en même temps. Non, je pense que ça dépend. Ça dépend vraiment en fait. Il y a pas de premier, deuxième ou troisième. Il y en a qui vivent très bien première et deuxième, et le troisième pas du tout. Après, ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette dépression postpartum va jouer sur la relation mère-enfant. Et ça va venir cristalliser, la relation de l'enfant dans ses systèmes d'attachement futurs. Le système d'attachement, dans la théorie de l'attachement, on va avoir l'attachement sécure, l'insécure, résistant et l'insécure évident. On a 3 formes d'attachement. En gros, qui fait que, par exemple, l'attachement sécure, l'enfant, quand on va le laisser, ne donne pas signe ni plus ni de moins. Il voit que son parent part et ça l'émeut, mais il n'y a pas de crise derrière. Et quand le parent revient, il y a une situation plutôt adaptée où il est content, mais c'est pas non plus soit les grandes pleurs, soit les grandes retrouvailles. Ça, c'est vraiment un attachement sécure. On a un attachement, c'est insécure, résistant, où là en fait l'enfant il va pas vouloir que le parent parte, et c'est un drame. Et on va avoir, et pareil pour son retour en fait, et on va avoir l'attachement insécure évitant, où là en fait l'enfant il montre qu'il se désintéresse totalement, et que quand il vient la rechercher c'est comme si elle n'était pas là. Et ça c'est important, parce que dans cette dépression postpartum, la maman va être pas forcément accessible aux émotions de l'enfant, puisque du coup elle doit gérer ses propres émotions, et elle va pas être dans l'accueil non plus de l'émotion de l'autre, et du coup tout ça, ça fait un amalgame qui va créer une relation avec des difficultés entre la mère et son enfant. Et après on peut aller plus loin dans l'explication, qui va être au moment de l'Œdipe, il y aura certainement quelque chose, au moment des séparations, des ruptures avec les premiers amours pour l'enfant, quand il va avoir l'âge de prépuberté, puberté, ça va être aussi difficile avec ses amis et son système de relations sociales aussi.
Bien, on marque une toute petite pause. On va revenir dans un instant pour la dernière partie de cette émission. Restez avec nous sur Nutri Radio.
Thérapsy, Caroline Derumini sur Nutri Radio.
Caroline Derumini sur Nutri Radio. La suite et la fin de cette émission. On parle de Baby Blues, dépression postpartum. Et on va aborder dans un instant la psychose puerpérale. Juste avant, sur le postpartum, vous avez parlé de comment cette dépression, elle est affectée, la relation mère-enfant. Mmh. Et le couple aussi, il est impacté.
Ah bah totalement, puisque du coup, c'est la triangulation des trois personnages. Mais parfois, c'est même plus parce que les frères et sœurs, si il y a déjà des enfants avant. J'avais dit tout à l'heure, pour donner un pourcentage, que le baby blues, ça concernait... Alors attention, c'est pas moi qui fais les statistiques, c'est les statistiques qui sont sorties. Le baby blues concerne à peu près 80% des femmes, des mamans. La dépression postpartum, on est entre 10 et 25%. Ça paraît peu, je trouve, par rapport à ce que moi je rencontre au cabinet, à ce que moi je peux vivre dans ma vie de tous les jours au quotidien avec les gens qui m'entourent. Et je pense que c'est dépression postpartum déclarée, on va dire. Pourquoi ? Parce que la plupart des femmes n'osent pas, à ce moment-là, aller voir des thérapeutes, des psys, un médecin, parce que, eh bien, encore une fois, le regard de la société, c'est que, la phrase que je disais tout à l'heure, t'as voulu un gamin, maintenant tu l'as, pourquoi tu te plains, c'était, fallait avant qu'il fallait penser si tu voulais sortir le samedi soir, c'est des mots très durs. Moi, je sais que, en tant que maman, pour mon deuxième, Raphaël, il pleurait énormément de 0 à 6 mois sans avoir de raison. Il avait ce besoin et moi, je le ressentais comme ça. Et ça, il s'avère que ça s'est vraiment révélé, réel, dans le sens où il n'y avait aucun mot particulier. Il pleurait pour catharsiser, pour faire sortir quelque chose qu'il avait en lui. Moi, je le disais, que j'avais l'impression qu'il était handicapé dans son corps, un peu, qu'est-ce que je fais là, je peux plus bouger. Et je disais aux gens, mais de toute manière, quand il pourra se mobiliser, vous allez voir qu'il arrêtera de hurler. C'est juste que dans son regard, j'avais vraiment la sensation qu'il ne savait pas pourquoi il n'arrivait pas à bouger. C'était une espèce de télépathie comme ça entre une maman et un enfant. Et j'avais été voir une pharmacienne pour prendre des boules caisses. Je crois que je l'avais déjà raconté au tout début d'enregistrement, il y a un an et demi sur Nutri Radio. J'avais été demander des boules caisses parce que je voulais accompagner mon enfant avec le sourire. C'est juste que je voulais juste ne plus entendre ses cris parce qu'en plus je faisais beaucoup de portages et que c'était assez difficile d'entendre crier un enfant toute la journée alors que il va bien, il a mangé, il est bien, il a pas mal au ventre, il est changé, il est aimé, il est nourri. Mais il fallait le laisser pleurer. Et ça, j'en avais parlé à ma pédiatre qui me disait « Oui, t'as totalement raison de le laisser pleurer, de l'accompagner avec le sourire, avec des câlins, avec de l'amour. Par contre, ça, on peut le faire avec des boules caisses. C'est pas la peine de nous infliger une souffrance et de garder le sourire, c'est beaucoup mieux, et de garder notre énergie pour notre enfant. » Et en fait, la pharmacienne m'a complètement jugée et m'a regardée comme si j'étais la pire des mères. Et c'est heureusement que c'était mon deuxième et que j'avais pas une vingtaine d'années ou 25 ans où je me disais mais mon Dieu, c'est je suis une mauvaise mère, et non, en fait, les boules caisses, je me suis trompée, je veux pas du tout, merci, au revoir madame. Alors que j'aurais pu peut-être tomber dans une dépression postpartum si j'avais été en fait non à l'écoute de moi-même.
Comment on s'en sort?
De quoi ?
De la dépression postpartum.
Eh bien, on vient consulter. C'est d'accord. Ce que je disais dans le fait que les statistiques montrent que
de
c'est entre 10-25%, quoi.
De quoi ? De quoi on s'en sort ? De quoi ? De l'eau ? Du bain ? Comment on sort du bain ?
Mais et c'est pour ça que je dis, ça doit être 10-25% de cas qui sont...
Oui, parce qu'on n'ose pas, en fait. Simplement, c'est dur aussi pour une maman de se dire je suis en dépression.
Ça paraît normal. Bah oui, mais tu sais, c'est les hormones. Oui, tu sais, ça vient d'accoucher. Ah, oui, tu sais. Tu sais, t'as le côté où tu banalises la chose. Mmh. Et puis, t'as pas envie d'embêter.
Alors là, maintenant, on va aller sur un step plus loin.
Oui. Parce que, la psychose puerpérale. Et là, je t'ai appris un mot.
Psychose puerpérale, c'est quelque chose d'assez dramatique et de terrible à vivre.
Oui. Une personne sur 1000. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est beaucoup. Parce que 1000 personnes, on ne peut pas tromper une fois une personne.
Non, c'est quoi, par contre ?
Une personne sur 1000, c'est quand même, je trouve, beaucoup. C'est un état, c'est un épisode dépressif pouvant se coupler avec de la mélancolie. Et la femme, en fait, quand elle va accoucher, va faire un délire sur son identité, sur le plan social, et elle ne reconnaît pas l'enfant qu'elle vient de mettre au monde. Elle peut aussi ne pas reconnaître son mari. Alors, pas du tout en mode Alzheimer, hein. C'est pas du tout dans cette idée-là. Mais dans le sens où, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais avec toi? Il y a une sensation de dérationalisation, je dirais, où on est à côté de son corps, on est à côté de sa vie et on ne veut pas de cette vie-là. Après l'accouchement, on se rend compte que, enfin on se rend compte pas, c'est vraiment une côté psychose, donc la psychose hein, c'est de la pathologie, c'est quelque chose qui est presque, je dirais, irréversible. Alors pour cette psychose puerpérale, elle peut être pris en charge et les résultats peuvent être bons dans le sens où on peut s'en sortir. Par contre, c'est un épisode qui vient impacter pour le coup le couple et l'enfant. Et on a vraiment, et ce qu'il faut savoir, dans les psychoses puerpérales, on a des pulsions de destruction. Et c'est là que c'est très important, c'est que la mère ne peut pas être seule avec l'enfant. Il va vraiment y avoir besoin de la famille proche, des amis, si on n'a pas de famille, ou de professionnels de santé, d'accompagnement, parce que la mère, elle n'est pas en train de dire en dépression postpartum, j'avais envie de mes samedis soirs. Là, on est vraiment dans quelque chose d'irrationnel, de psychotique, et la personne va être dépossédée de ses moyens et peut même faire des séjours en psychiatrie suite à son accouchement.
Mais ça, ça se détecte, ça se voit instantanément, pardon ? Ça se voit, ça se détecte, on se dit, bah tiens, c'est une psychose, on se dit, bah non, ça doit être un petit baby blues.
Non. C'est, en fait, sur le moment, c'est tellement, je vais dire, visible. La mère ne veut tellement pas, c'est un refus total et catégorique, que tout de suite la maternité s'en aperçoit, en fait. Les assistantes maternelles,
les sages-femmes.
Les sages-femmes, merci. Les assistantes puéricultrices. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Elles s'en rendent compte facilement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se traite quand même plus, c'est plus réversible qu'un délire psychotique. Et ça, c'est important.
D'accord, donc ça veut dire que...
Le délire psychotique, c'est encore autre chose.
D'accord, là, on n'est pas dans le délire, on est dans la psychose puerpérale. Mais oui. Vous me racontiez tout à l'heure en antenne que c'est pas forcément une femme qui va dire bah non, je suis pas capable d'avoir un enfant, je vais pas réussir. C'est-à-dire que toutes les angoisses qu'on peut avoir avant. Vous me racontiez l'histoire d'une personne qui visiblement n'avait pas les signes, qui n'avait pas ces signaux-là, qui a priori se disait bon oui bah je vais assumer, je suis contente plutôt d'être enceinte, ça va bien se passer.
Tout à fait.
Et en fait, au moment de l'accouchement, boum.
Ça peut toucher n'importe qui. Ça peut toucher soit les personnes qui sont surprises par leur grossesse et qui n'avaient pas forcément envie d'avoir un enfant. Ça peut être à la suite d'une personne qui avait une fibre et un instinct maternel très développé et que c'était ce qu'elle attendait de plus au monde et puis le déclencher également. Ou ça peut être la personne qui s'est dit bah, tiens, pourquoi pas un enfant avec lui, oui, et le déclencher aussi. Enfin, il n'y a pas de loi à ça. Je reviens sur le mot mélancolie quand je disais que ça pouvait être assimilé à la mélancolie. Là aussi, il y a une distinction à faire entre le deuil et la mélancolie. La mélancolie, c'est quelque chose qui ne vient pas à la suite d'un impact, d'un moment, d'un choc. La mélancolie, on vit avec. C'est quelque chose qui vient s'imprégner en nous. On a un état mélancolique et on n'est pas, c'est pas forcément couplé avec la perte dans le réel, en fait.
On devrait faire une émission là-dessus. Comment sortir de la mélancolie ?
Alors, je suis désolée, mais on n'en sort pas. On vit avec, jusqu'à la fin.
Ok, waouh ! Donc, quand vous avez quelqu'un...
On peut essayer de mieux vivre avec, mais la mélancolie, ça nous habite.
Et ça, c'est aussi dû à... Enfin, c'est quoi ?
Pas à plein. Ça peut être à plein de choses, de facteurs.
Vous avez connu des gens mélancoliques. C'est dur hein, d'être avec quelqu'un de mélancolique parce qu'il est bien, l'instant d'après, il est en bas, dans le fond du seau. On ne sait pas. Non mais c'est vrai, c'est dur.
Bah, la mélancolie, c'est toujours un peu, toujours lancinant. Hein.
Oui.
C'est jamais, il est super bien, il est très mal.
Il
y a quand même quelque chose où la vraie mélancolie, la mélancolie de manière psychologique, ça va être quand même toujours... plus ou moins là, comme une espèce d'ombre, de noir, de gris, de nuage au-dessus de toi. Le deuil, c'est différent. C'est pour ça que je fais la distinction entre être dans un état mélancolique ou un état dépressif ou une dépression. Pareil, entre l'état dépressif et une dépression, ce n'est pas pareil. L'état dépressif, c'est passager. La dépression, généralement, tu vis avec et tu te fais accompagner pour la traiter.
Et la mélancolie ?
Et la mélancolie, tu vis avec, mais généralement, tu...
Tu ne te fais pas accompagner pour la traiter ?
Ah si, ça alors aussi. si, mais là, c'est l'histoire d'une vie.
C'est marrant parce que je regardais un peu la définition qu'on avait de la mélancolie. C'est vrai que dans la définition qu'on peut trouver, c'est état de dépression.
Eh oui.
Donc il y a des...
À chaque fois, tac. C'est pour ça que c'est... Et c'est pour ça que parfois, très souvent même, sur les réseaux, on vient tout mélanger et dire tout et son contraire avec des définitions qui vont être très réductrices par rapport à l'ampleur qu'il y a derrière, sous prétexte qu'il faut faire un réel en une minute trente. Mais dans ces cas-là, moi, je suis dans l'idée de, à ce moment-là, vaut mieux rien dire que de dire la moitié des choses ou le quart des choses, parce que en fait, les gens, ils ont l'impression d'acquérir comme ça un savoir, et résultat, en fait, ils se trompent. C'est pas la réalité. C'est pas toute. Enfin, tu vois, il y a l'arbre et la forêt derrière, quoi.
Ouais, exactement, Caroline. Je réfléchissais à ça. C'est vrai que sur cette histoire de mélancolie, il y a beaucoup de choses à dire.
Eh bien, la mélancolie, ce qui est intéressant aussi, je regardais par rapport à mes notes, c'est que les grands artistes, grâce à leur état mélancolique, ont réussi à nous faire des superbes œuvres d'art, Van Gogh ou le spleen de Baudelaire, où on va avoir ce besoin de sublimation, parce que, étant donné que la mélancolie, on va vivre avec, ça va être aussi une muse, ça va être une source d'inspiration. Et comme on a ce besoin pour notre survie de catharsiser. Donc catharsiser, c'est venir extérioriser quelque chose à l'intérieur de soi. La sublimation, on va la transformer, on transforme le moche en beau, et on va venir comme ça se nettoyer, se libérer, se faire du bien de manière thérapeutique. C'est pour ça que l'art thérapie est intéressante, parce qu'on va être dans cette catharsie, dans cette sublimation. Et les artistes, généralement, c'est des bons mélancoliques ou des bons tiraillés, parce que ils vont avoir des messages à faire passer à travers une œuvre. C'est pas juste une création pour créer, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une histoire, il y a une lourdeur, il y a une profondeur derrière, et c'est ça qui fait la différence entre un artiste qui va fonctionner et un artiste qui va pas fonctionner. C'est que des chanteurs, par exemple, il y en a plein, des interprètes, il y en a peu. Quand on va venir chanter avec les tripes sur les paroles d'une chanson que la personne a écrite parce que il a ce besoin de sublimer un moment donné, c'est là où ça va être important et intéressant. Donc les grands mélancoliques, heureusement qu'on les a. Culturellement.
Merci, ben voilà, c'est bien. Une manière positive aussi de terminer cette émission, à retrouver en podcast à partir de 18h ce dimanche. Merci Caroline, la semaine prochaine on va se retrouver en distanciel à nouveau.
Et oui, je repars dans mes montagnes.
Bonne route dans vos montagnes. Et puis,
Je reviendrai au mois de juin.
Voilà, vous revenez quand vous voulez. Mais oui, le mois de juin, il se passe quelque chose. On est en train de vous préparer quelque chose. Mesdames, messieurs, dans pas très longtemps, on y reviendra. On y reviendra
mais
dans
le détail. Surtout que je reviens au mois de juin, ça c'est sûr. Enfin, moi, je travaille à Castellane au mois de juin, alors du coup, à chaque fois, je passe par ici.
Non, mais ne nous racontez pas votre vie, hein, Caroline.
Si.
C'est incroyable.
Si, je forme l'hôpital de Castellane, bah, ça fait partie du sujet. Je vais pas enfiler des perles à Castellane.
Vous êtes un peu mélancolique aujourd'hui.
Non, pas du tout.
Bien.
Il est fatigué.
Merci.
Pas grave.
Non, mais je remarque que votre attitude envers moi a changé depuis que vous êtes venu au studio.
Ah,
votre attitude envers moi a changé.
On en parlera la prochaine fois.
Exactement.
D'accord.
Revoyez un peu. Revoyez votre comportement, s'il vous plaît. Allez, émission donc à retrouver, je l'ai déjà dit. Donc, c'est le retour de la musique. Au revoir, Caroline. Bonne route.
Au revoir, Fabrice. Merci.
En partant en camion.
Oui, bien sûr.
Thérapsy, Caroline Derumini sur Nutri Radio.